conférence numéro 37.
Oui, chapitre 1er, verset 6. Si nous sommes dans la tribulation, ah oui, je me rappelle maintenant, c'est pour votre, ce que j'ai dit, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous recevons des consolations, c'est pour votre consolation, montrant son efficacité dans le support des mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Alors, ça veut dire deux sortes de choses. D'une part, les Corinthiens vont être invités à partager avec Paul quelques-unes de ses tribulations, dont il va nous faire part tout à l'heure. Il va expliquer le genre de tribulation qu'il a subi à Éphèse, et qu'il n'était pas piqué des vers ou des hannetons, comme vous voudrez. Et il les invite donc à partager cette tribulation avec lui, pour partager avec lui la consolation que Dieu envoie à chaque fois. Et puis, d'une manière plus générale, plus profonde peut-être, ce que je vous disais la dernière fois, il les a affligés, il les a donc mis dans la tribulation, parce que il a réussi à leur communiquer quelque chose de la tribulation qu'il éprouvait à leur égard. Je vous disais que c'était ça l'apostolat, c'est un des aspects décisifs de l'apostolat, c'est d'éprouver une très profonde tribulation en face de la détresse qu'on sent être celle de ceux que Dieu nous donne, des interlocuteurs auxquels il nous envoie, et que souvent on perçoit par une lumière divine beaucoup plus fortement qu'eux-mêmes ne peuvent le percevoir. Et c'est presque le béaba de l'apostolat. Il y a un béaba, il y a une source plus profonde que ça, qui est la joie de Dieu, bien sûr. Faut jamais, jamais laisser de côté, dans tout ce que nous faisons, la gratuité, le luxe et la surabondance, qui sont la source de tout, puisque Dieu est gratuité, luxe et surabondance. Il l'est éternellement en lui-même dans le mystère trinitaire, il l'est extérieurement dans le mystère de la création, il l'est follement dans le mystère de la rédemption, et l'apostolat est une prolongation du mystère de la rédemption. Donc, avant de prêcher pour sauver les âmes, je dirais, on prêche pour rien. Pour rien, ça ne veut pas dire à la légère, ça ne veut pas dire légèrement. Puisque nous irons jusqu'à dire que un des motifs pour lesquels Jésus est monté sur la croix, c'est pour rien. Alors, vous vous rendez compte de ce pour rien, ce luxe, cette surabondance, cette folie, cette joie coûte cher. Elle est d'un poids écrasant pour le cœur, écrasant pour l'intelligence. Bon, l'apostolat, c'est un mystère qui prolonge le mystère de la croix et de la résurrection. Et le mystère de la croix et de la résurrection, qui lui-même est un débordement gratuit du mystère trinitaire. Voilà, c'est un raccourci rapide, hein. Bon. Alors, donc, la source ultime de tout apostolat, c'est cette espèce de débordement gratuit auquel nous ne comprenons rien. Même quand nous sommes fidèles à ce débordement, nous ne savons pas ni d'où il vient, ni où il va, nous ne pouvons pas comprendre la hauteur, la largeur, la profondeur de cette espèce de mouvement qui nous porte vers les autres, parce que ce mouvement, c'est le même que celui qui a fait monter le Christ sur la croix pour rien, ressuscité pour rien, et chanter la joie du Père pour rien. Alors, on est pris dans le courant, et on n'y comprend pas grand chose, même si on est authentiquement et fidèlement pris dans le courant. Alors ça, c'est la source ultime de tout apostolat. Bien. Si on n'oubliait pas ça, on s'exciterait peut-être un petit peu moins sur les aspects sociologiques que je ne renie pas du tout de l'apostolat, mais qui vous étouffent l'étincelle dans l'espace d'un credo, disait Thérèse d'Avila, mais elle avait encore bien de la chance que ce soit dans l'espace d'un credo. Aujourd'hui, ce serait dans l'espace d'une statistique. Alors, ça, c'est le premier moteur. Alors, le moteur qui n'exclut pas, qui n'est pas du tout en contradiction avec celui-là, parce que ce n'est pas plus un moteur utilitaire que le premier, c'est la perception de la détresse et de la misère de l'âme des hommes. Du cœur, si vous n'aimez pas le mot âme, que je suis prêt à défendre, mais enfin, soyons charitables, évitons le scandale des faibles qui n'encaissent plus le mot âme. Bien, alors, la détresse des profondeurs de l'homme. Bon, alors, percevant ça, on est, faites attention, le premier mouvement, c'est pas d'y porter remède. Pour un apôtre, le premier mouvement, en face de cette perception de la misère et de la détresse des hommes, spirituels, déjà encore un mot dangereux, mais enfin, pas seulement corporel. Bon, donc ayant une dimension très profonde, totalitaire. Voilà. Une misère totalitaire, une détresse totalitaire. Et pour un chrétien ayant une portée éternelle. Percevant cela, la première chose que l'apôtre fait, c'est d'entrer en tribulation. Voilà. C'est d'être bouleversé. Autrement dit, c'est ça la miséricorde. C'est le premier moteur dans l'ordre de la miséricorde, c'est ça. Parce que c'est le reflet de ce que Dieu éprouve face à la même misère et à la même détresse. Alors si on ne participe pas à ça, si on saute sur cette étape rapidos, parce que c'est pas très agréable, vite portons-y remède et comme ça on n'aura pas à être bouleversé. Eh bien c'est zéro au point de vue de l'apostolat parce que ça n'a plus rien de divin. Si vous voulez télescoper, sauter à pieds joints sur cette étape, en vous disant c'est très gentil d'être bouleversé par la détresse, mais c'est plus utile d'y remédier et de la supprimer, eh bien vous ne pratiquez pas la miséricorde divine. Vous faites des choses peut-être très intéressantes, mais ça n'est plus ce reflet du bouleversement des entrailles de la miséricorde de Dieu en face de la misère humaine. Il faut donc d'abord déguster, trinquer et être bouleversé soi-même. Alors plus ou moins spectaculairement, nerveusement, ça, alors ça dépend des tempéraments, des charismes, des dons de Dieu, de ce que Dieu demande, de ce que Dieu donne, ça, alors je m'occupe pas de ça. Mais dans les profondeurs, de toute façon, il faut pleurer, comme disait Saint Dominique au bienheureux Bertrand de Comminges, je crois, qui pleurait tout le temps ses péchés, et qui n'arrivait pas à en sortir de pleurer ses péchés. Saint Dominique lui dit, bon ben ça suffit, c'est bien, t'as bien pleuré des péchés, maintenant tu vas pleurer ceux des autres. Voilà. C'est une œuvre divine, ça. Et ça n'implique pas du tout qu'on pleure physiquement, mais ça implique qu'on soit en état de tribulation. Et pour être en état de tribulation, il faut être en état de perception. Et c'est une grâce à demander pour les prêtres et pour les apôtres, et pour soi-même, dans la mesure où on sent que Dieu nous demande d'être apôtre et prêtre, ou père de famille, par exemple, car on a tout de même charge d'âme, hein, eh bien, c'est de percevoir, déjà. Et percevoir, c'est pas drôle. Pas si trop bien, parce que ça va très loin. Et il faut accepter et demander même de percevoir des choses qui vont nous rendre malades. Comme Paul était malade de ses Corinthiens. C'était parmi les maladies, il était... et il avait peut-être d'autres maladies, mais il avait celle-là. Et le Christ n'a jamais eu que celle-là comme maladie. Il était malade des Juifs, puis il était malade du monde entier, au fond. Secrètement, mais officiellement, il était malade des Juifs. C'est la seule maladie qu'il ait connue. Mais il en est mort, maladie mortelle. Il est mort de miséricorde, Jésus-Christ. On va s'y tromper. Bien. Ben, Paul aussi, en fin de compte. Alors, Paul était malade, il était malade des Juifs, mais enfin, il le dit, nous aurons des textes saisissants là-dessus, puisqu'il dit « J'aimerais mieux être anathème. J'en suis tellement malade que je voudrais être anathème pour qu'il soit sauvé. » C'est quand même pas mal. Et c'est des Juifs qu'il parle. Il était malade des Juifs, mais il était malade aussi de l'univers entier, comme il le disait la dernière fois, je crois, qui est tombe sans que je brûle. Voilà. Alors, ça c'est le premier temps de l'apostolat, dont on ne parle pas beaucoup, hein, qui est fait de perception, d'une lumière surnaturelle. On disait de Catherine de Sienne, par exemple, qu'elle avait le don de percevoir l'odeur des âmes. Voilà encore les âmes qui reviennent. Je ne veux rien, vous voulez. Mais à propos d'odeur, alors l'odeur des êtres, l'odeur des profondeurs d'un être. Nous verrons justement dans la suite du texte, je ne sais pas encore, hein, ce sera quand on y sera, que Paul dit nous sommes la bonne odeur du Christ. Et il dit voilà, nous trimballons avec nous une aura, comme je vous disais la dernière fois. C'est à vous que je parlais de l'aura la dernière fois? Non, c'est pas à vous. Bon, eh bien voilà, oui. Nous traînons avec nous un rayonnement qui, disent justement les hindous, est bénéfique ou maléfique selon les cas. Bon, Paul appelle ça l'odeur et il y a des gens, justement, ce sont ceux qui ont une âme apostolique, qui reçoivent comme premier don, car c'est le fondement de l'apostolat, le don de percevoir avec plus d'intensité que d'autres cette aura. Ce parfum. Alors, comme tous les dons un petit peu extralucides, hein, à première vue, ça fait envie. On se dit, ça doit être bien. Bon, Je ne crois pas en avoir reçu beaucoup de ce genre de dons. Je suis tout de même pas, et loin de là, au niveau de Catherine de Sienne, qui, je crois, s'évanouissait à l'odeur des âmes pourries. C'est un état de péché mortel. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle n'en voulait pas. Elle n'était pas indignée. Non, elle s'évanouissait, tout simplement. Bon, alors, je suis très loin de ça. Mais si peu que ce soit, conseille pas, c'est un don discutable. Vous voyez, quant aux agréments qu'il procure. Voilà. Il donne de très grandes joies. Il donne aussi autre chose. Sans parler que c'est pas que quand on juge quelque chose à l'odeur, c'est extrêmement net au point de vue qualitatif, mais malgré tout, c'est quelquefois mélangé. Et on ne sait pas toujours très bien. Alors, c'est pas clair intellectuellement, vous comprenez. Ça sent le roussi, ça sent quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, par exemple, c'est une formule que j'emploie souvent. Vis-à-vis de moi-même, quand je pense à quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis quelquefois, ça rend malade. Et d'autant plus malade qu'on ne peut pas dire ce qui ne va pas. Et moins on peut le dire, plus c'est douloureux. Alors, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais il faut tout de même que je parle de saint Paul. Donc, vis-à-vis des Corinthiens, il avait éprouvé cette perception qui a provoqué la lettre que nous avons lue, et qui constitue matériellement la fin de la deuxième aux Corinthiens. Il en a eu la nausée. Vous voyez la notion de nausée, la notion d'odeur, la notion de... C'est ça. Bon. La nausée de sentir les astuces de Satan. Et encore ça, c'est rien, les astuces de Satan. Ce n'est pas ça qui donne la nausée. Parce que c'est sulfureux, on s'écarte. Mais quand on voit ce que Dieu nous a donné, se complaire dans ces astuces, en être victime complaisamment, se laisser avoir, alors là, on est malade. Vous voyez ? Eh bien, il a été malade au sujet des Corinthiens. Et alors ? Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase de l'apostolat, c'est finalement... Il n'y a pas d'autre salut possible pour ceux qui sont en danger, ainsi, et pour lesquels on perçoit que ça va mal, c'est que cette nausée douloureuse provoquée dans le cœur de l'apôtre par le parfum délétère dans lequel sont plongés ceux que Dieu lui a donnés, eh bien, cette nausée, il la transmet comme une maladie à ceux qui ne se rendent pas compte, et qui attrapent, comme on attrape la grippe, la nausée d'eux-mêmes. Voilà. C'est comme ça que commence le salut. La nausée de soi-même. Quand les premiers pères de l'Église disaient « Le secret de la vie spirituelle, c'est se connaître, connaître Dieu », se connaître, faut pas s'y tromper, ça veut dire avoir la nausée de soi-même. C'est-à-dire respirer l'odeur qu'on a. Et vous le savez très bien, une odeur qui nous imprègne, on l'a. Enfin, si on les narines s'habituent, il y a une fatigue du nerf. olfactif. Et alors on ne sent plus. On ne sent pas qu'on sent l'ail ou je ne sais pas quoi, moi. Mais les autres, ils le sentent bien. Eh bien, l'œuvre de l'apôtre, c'est d'obtenir et de supplier. Ces paroles, y étant ou n'y étant pas pour quelque chose, alors là, c'est vraiment du genre robinet que Dieu tourne pas, vraiment, c'est absolument secondaire, mais c'est de supplier que soit transmise à l'autre, par voie de contact peut-être, par voie de supplication sûrement, la nausée qu'on éprouve soi-même. Et alors se produit ce que Catherine de Sienne appelait le vomissement. On est délivré de ses péchés par un vomissement, et pour elle, c'était ça le sacrement de pénitence. Pour les grands pêcheurs. Ils avaient de grandes nausées, ils avaient la nausée en découvrant ce qu'ils étaient, non pas ce qu'ils faisaient seulement, mais ce qu'ils sont. Et alors, n'évoquons pas trop, parce qu'il s'agit d'une nausée spirituelle, n'est-ce pas, en face d'un mal spirituel. Alors les Corinthiens ont dû subir, grâce à la lettre peut-être, si ce n'est pas celle-là, c'est donc son frère ou sa sœur. C'est une lettre du genre. Grâce à une lettre de ce genre, ou à travers comme instrument une lettre de ce genre, les Corinthiens ont reçu la nausée de Paul à leur propre sujet. Et ils l'ont partagée. Alors ils ont été malheureux, évidemment. Ils l'ont partagée assez peu, je veux dire très faiblement par rapport à ce que Paul connaissait, mais enfin un petit peu tout de même. Alors ils ont été malheureux. Et dès qu'ils ont été malheureux, ben, ils se sont légèrement, enfin suffisamment, efficacement convertis, suffisamment pour que Paul soit extrêmement consolé et qu'il n'ait plus eu du tout envie d'aller leur faire des reproches. Et c'est pour ça qu'il a changé d'avis, au lieu d'aller vers eux comme il le pensait, eh bien, il s'est dit, c'est pas la peine, puisque Tite m'a consolé, il le dit plus loin, je n'irai pas vers eux pour le moment. Voilà. Alors, ça, c'est donc la reprise de ce que nous avons dit pour terminer. Le mystère de l'apostolat. C'est ça, le mystère de l'apostolat. Alors, le reste, ça va tout seul. Une fois que la nausée a été transmise, bien que l'intéressé a vomi son poison, son mal, par le sacrement de pénitence ou autrement, mais enfin, le sacrement de pénitence doit intervenir s'il s'agit d'un mal grave, alors, eh ben, c'est fini, il n'y a plus qu'à consoler. Alors, on est l'instrument de la consolation, après avoir été celui de la tribulation qu'on a éprouvé soi-même. Alors, on est consolé soi-même, et on transmet quelque chose de cette consolation à l'intéressé, en lui donnant, alors, en lui chantant la gloire de Dieu, en lui donnant l'enseignement qu'on a à notre disposition, et en lui disant comme Dieu est heureux, parce que Dieu l'aime, et qu'on en sent quelque chose. Enfin, ça, c'est la partie, c'est le côté agréable de la chose. Hein. Mais, c'est pas dominant sur la terre. Et c'est pas le plus important sur la terre, parce que nous aurons l'éternité pour ça. Car de même que les souffrances du Christ débordent sur nous, de même par le Christ déborde aussi notre consolation. Je reprends le texte, vous voyez que ça s'enchaîne assez bien. Or, si nous sommes dans la tribulation, c'est pour votre consolation et votre salut. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Je suis dans la tribulation pour que cette tribulation vous sauve et que vous puissiez connaître la consolation que je partagerai. Justement, si nous recevons des consolations, c'est pour votre consolation, montrant son efficacité dans le support des mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Et notre espérance à votre égard est ferme, sachant que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part de même à la consolation. Alors ça a un sens très profond que je viens de vous expliquer, ça a un sens moins profond, plus banal, les deux ne s'excluent pas du tout, qui va se développer maintenant. Il va leur dire, ben oui, j'en ai vu de toutes les couleurs, peut-être à cause d'eux, hein, même les souffrances et les tribulations extérieures venues à Éphèse, il peut y avoir un lien mystérieux entre ces tribulations extérieures et puis la tribulation intérieure provoquée par le spectacle de la détresse des Corinthiens, exactement comme il y a un lien dans le Christ entre l'agonie, qui est sa grande maladie, et puis la croix, qui est un événement extérieur, dont nous reparlerons de tout ça un jour. Alors, justement, la tribulation extérieure qui peut-être projette comme sur un écran, de manière spectaculaire, la tribulation intérieure, la plus profonde, voilà qu'il en parle. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, mes frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés outre mesure. Alors voilà des notions clés, au point de vue chrétien, au point de vue concret, au point de vue pratique. Nous avons été accablés outre mesure, au-delà de nos forces. Voilà, Paul qui semble en avoir pas mal de force, qui a énuméré dans ce que nous avons lu la dernière fois, tout ce qu'il a enduré pour l'amour du Christ et de salut des âmes, des hommes, selon la prédiction que le Christ lui avait faite justement au chemin de Damas, ou plutôt selon la prédiction qu'il avait faite à Ananie, il avait dit je lui enseignerai à cet homme tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Bon, eh bien, Paul qui en a vu de toutes les couleurs et qui semble être un champion, quelqu'un qui ne craint pas les épreuves et les tribulations, eh bien, il reconnaît qu'il y a des moments. C'est la seule fois où il en parle, enfin c'est très net, où là il dit non, ça dépassait mes forces. Alors ça c'est très important parce qu'il existe trois sortes de souffrances dans la vie, en gros, très en gros, mais c'est un en gros qui est quand même très précis. Il y a les souffrances qui constituent un peu le sel de la vie, par exemple un peu d'appétit, est nécessaire au plaisir de manger, un peu de fatigue au plaisir du repos, un peu de solitude au plaisir de la société, et un peu de société au plaisir de la solitude. Hein. Il faut bien donc un petit peu d'ennui pour goûter le changement. Ça, c'est... Bon, c'est le sel de l'existence. C'est une souffrance qui pose aucun problème, que connaissaient nos premiers parents, à mon avis, dans le paradis terrestre, et qui est remplacé par la gloire dans l'état de la béatitude eschatologique, la béatitude ultime, suprême. Mais alors ça, c'est bien mystérieux, je ne cherche pas à vous l'expliquer ce soir. Mais dans l'état non glorifié, on a besoin d'un peu de sel pour que le plaisir même de l'existence soit puisse saillir, jaillir, être savouré. Bien. Alors, il y a une deuxième catégorie de souffrances qui, elles, alors, sont vraiment des souffrances. Donc, qu'il est souhaitable d'éviter le plus possible. Qui sont quelquefois même très dures à encaisser. Mais je les caractérise par le fait que, avec un peu de courage, avec un peu de raison, on peut faire face. Voilà. On peut tenir le coup. Alors, évidemment, c'est très subjectif et c'est très relatif. Il y a des gens qui ont beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, qui sont durs au mal. Hein. En général, les paysans, par exemple, sont durs, ou les montagnards. Chez le dentiste, en général, ils se tiennent mieux que les citadins, n'est-ce pas? Je n'ose pas dire les hommes que les femmes. Parce qu'alors là, il y a des expériences très scientifiques qui ont prouvé que dans certains cas, et à l'égard de certaines souffrances, les femmes sont beaucoup plus résistantes que les hommes. Disons que ce n'est pas le même genre de souffrance devant lesquelles les hommes sont armés et devant lesquelles les femmes sont armées. Donc il y a, de toute façon, une équation personnelle qui fait que, avec un peu de bonne volonté, avec un peu d'effort, ces efforts étant d'ailleurs toujours inspirés soit par une force bénéfique, soit par une force maléfique, je ne traite pas de ça pour le moment, l'orgueil ou l'amour, c'est toujours à ça que ça revient, ou un mélange, un cocktail des deux, mais en tout état de cause, il y a donc des souffrances auxquelles on peut, devant lesquelles on peut tenir le coup, auxquelles on peut résister sans être décomposé. Et puis, il y a la zone de ce qui n'est plus humainement supportable. C'est ça, alors là, dans cette zone-là, on entre dans le mystère de la souffrance. Pas avant, il y a que cette zone-là. Ou alors là, on a les ressources qu'on peut avoir, ressources d'amour, ressources d'orgueil, enfin tout ça est absolument insuffisant parce que le paquet est vraiment trop profond et trop intense pour qu'on puisse le supporter. Et je me rappelle, quelqu'un m'avait posé une fois cette objection qu'on pose si souvent. Qu'est-ce que vous nous racontez que le Christ a souffert plus que tout le monde? Il n'a pas tellement plus souffert que tout le monde. Il a souffert la croix, ça n'a duré que 30 jours. Il y a des gens qui souffrent pendant des années des tortures indicibles, soit dans les camps de concentration, soit en vertu d'une maladie très douloureuse. Le Christ, je vois pas pourquoi. On monte en épingle, comme exceptionnel, des souffrances qui certes sont impressionnantes, mais enfin qui ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des souffrances humaines. Alors, j'ai répondu, en recourant à cette distinction, en disant, au fond, ce n'est pas une question de quantité, de savoir que le Christ puisse être dit comme étant le champion qui a quantitativement le plus souffert. Ce qui compte, c'est qu'il y a trois zones dans la souffrance. Il y en a une où la quantité importe peu, puisque de toute façon, elle dépasse ce qu'on peut supporter. Eh bien, il est entré dans cette zone-là, voilà, et largement, et évidemment. Alors c'est tout, il n'y a pas besoin de savoir autre chose. À partir du moment où on entre dans cette zone, allez faire des calculs. Hein, je vous demande un peu. Le seul calcul, c'est savoir justement si ça dépasse ou si ça dépasse pas ce qu'on peut supporter. Si on peut supporter ça sans craquer, ou si on ne peut pas supporter ça sans craquer. Voilà, la notion de craquer, très important. Hein. Bien, et bien Saint Paul dit, et bien là, j'ai craqué. C'est ça qui est important. Là, j'ai craqué. Vous voyez ? Au-delà de nos forces, au point que, alors là, un texte difficile à traduire, nous avons été accablés outre mesure au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de conserver la vie. Alors dans le mot à mot du Perspic, ça donnerait au point que nous désespérions même de la vie. Alors vous voyez, ça m'intéresse, parce que nous frôlons là, une question très moderne, très existentialiste. N'est-ce pas ? Saint Paul a-t-il connu ce que nous appelons le désespoir, au point de connaître même ce que nous appelons la tentation du suicide ? Vous voyez ? Alors ce qui est frappant, c'est que le texte de la Vulgate va nettement dans ce sens-là, encore plus que la traduction du Perspic Donc nous avons été accablés au-delà de nos forces. Ita ut tederet nos etiam vivere. En telle sorte que vivre pour nous, c'était même, alors tederet, ça veut dire tout de même avoir la nausée. Voilà, au fond c'est ça. Le verbe tedere en latin veut dire avoir la nausée, avoir le dégoût, avoir l'ennui, le spleen. Au fond. Tedere, c'est le spleen. Alors, si on prend la Vulgate, eh bien, nous étions dans une telle tribulation que vivre, ça valait plus le coup, quoi. Ça ne valait plus le coup de vivre. J'avoue qu'après avoir bien réfléchi et cherché le texte grec, dont je vais vous dire un mot, finalement, la traduction la plus fidèle de ce texte, je la trouve dans, mais je n'y suis pas allé voir, j'irai voir pour vous la prochaine fois, la parole du Christ. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et au fond, c'est ça. Mon âme est triste à en mourir. Vous voyez ? Or, justement, là aussi, le Christ était en danger de mort. Mais parce qu'il était en danger de mort, mais pas un danger de mort banal, et c'est ça sur lequel je voudrais insister. C'est pas purement et simplement un danger de mort, c'est un danger de mort qui est la projection spectaculaire sur un écran d'un danger de mort beaucoup plus secret, beaucoup plus mystérieux, et qui est le danger de se sentir vaincu à l'intérieur par les forces de la mort. Voilà, c'est ça que ça veut dire, mon âme est triste à en mourir. Et nous revenons à la tribulation. Alors le texte grec, le texte grec nous laisse dans une ambiguïté parfaite. En profondeur, c'est cette espèce de d'agonie. Voilà, c'est une participation à l'agonie du Christ. Et là, je le dis pour la consolation de beaucoup, on peut très bien, il est même essentiel à l'agonie du Christ, qu'on ne sache pas, quand on la connaît, que c'est l'agonie du Christ. Alors ce qui est très ennuyeux, c'est qu'il y a aussi des mélancolies, des découragements, je vous le disais la dernière fois, des tribulations, qui ne sont pas l'agonie du Christ, et qui sont caractérisées, je vous l'ai dit aussi, par une certaine stabilité, par une certaine permanence inquiétante. Parce que quelqu'un qui est dans cette situation normale, c'est quelqu'un qui connaît quand même de temps en temps la consolation, qui de temps en temps perçoit au moins que son agonie est l'agonie du Christ. Dieu ne laisse pas quelqu'un, et ça c'est en vertu d'un principe ferme dans mon esprit, tout au moins. Je dis, Dieu ne laisse pas quelqu'un dans la souffrance, tout le temps, sans jamais venir le consoler ou le réconforter, sauf si, bien entendu, il s'agit de quelqu'un qui lui résiste, évidemment, et qui lui résiste de manière infernale. Alors ça, c'est une autre histoire. Mais quelqu'un qui ne résiste pas trop à Dieu, qui n'est pas dans la situation des damnés, par exemple, eh bien, non, Dieu ne le laisse pas indéfiniment dans la souffrance sans jamais le consoler. Mais ce qui peut se produire, et ça, je l'ai observé, alors je peux dire que je connais, je pourrais donner la preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont effectivement consolés, mais qui se gardent bien de le dire, n'est-ce pas ? Et qui systématiquement ne montrent que leur désolation. Alors forcément, ça donne une espèce de tableau, vous comprenez ? On se dit, jamais une ombre de soleil, en effet, parce qu'ils sont très loquaces, ils ont un don de communication, comme on dit aujourd'hui, d'expression quand il s'agit de la tribulation, ils n'en ont plus aucun quand il s'agit de la consolation. Ça s'en fout, ça tombe dans le trou, on n'entend jamais parler. Alors forcément, mais j'y crois pas. Mais où ? Bien, mais alors, ceci dit, à cette nuance près, je crois que on peut être, oui, effectivement, dans l'agonie du Christ, plus ou moins, ou l'agonie de Paul, enfin, et que ce n'est pas des états extraordinaires, il suffit que ce soit profond, intense, proche de la mort, proche de soit d'une impression de mourir, soit d'une impression qu'on n'aura plus la force de vivre le lendemain, soit, enfin, des choses, je ne sais pas, moi, quand on dit aussi... le soleil s'arrête de briller pour moi parce que j'ai reçu un coup, j'ai appris la nouvelle de la mort de quelqu'un, enfin, des choses comme ça. Je me suis demandé comment on pouvait encore vivre et regarder le soleil après un coup pareil. Eh bien, c'est sans qu'on s'en doute quelque chose de l'agonie du Christ qui passe par nous. Et c'est à ces moments-là que, également sans qu'on s'en doute, souvent, si on ne se durcit pas trop, si on ne se fait pas non plus trop de cinéma, ce qui est une manière de se durcir, eh bien, on est le plus proche de Dieu. Voilà. Alors, donc, il est tout de même bon de savoir pour nous que Paul a été capable d'avouer que il en avait trop vu, que ça avait dépassé ses capacités, qu'il avait eu, comme Élie, à la fois envie de mourir et peur de mourir. C'est les deux. C'est ça qui caractérise ces états-là. C'est qu'on a à la fois envie et peur de la mort. Alors, une phrase assez difficile à expliquer aussi. Nous avons tenu en nous-mêmes l'arrêt de mort. Ça veut dire, semble-t-il, eh bien, il s'est considéré comme condamné à mort. Par les Éphésiens, probablement. Ou par les Juifs d'Éphèse, probablement. Et alors, Dieu nous a mis devant la mort, quoi. Voilà. Nous avons, nous les apôtres, ils étaient trois, nous avons été mis devant la mort avec l'impression que ben, ça y était, quoi. Afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui ressuscite les morts. C'est net. Voilà. Oui, il y a des moments où Dieu s'arrange pour qu'il n'y ait plus possibilité d'espoir humain, mais uniquement dans le fait que Dieu ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés de cette mort si menaçante, et qui nous en délivrera, car elle est toujours menaçante. On ne le sent plus de la même façon, et on est dans la joie parce qu'on sent qu'on a été délivré, et on est dans la joie parce qu'on sait qu'on en sera délivré. C'est sur lui que repose notre espoir, qu'il nous délivrera encore, vous-même apportant votre concours en notre faveur par la prière, afin que cette grâce, nous étant accordée pour un grand nombre de personnes, soit aussi pour beaucoup une occasion de remercier à notre sujet. Car notre fierté, c'est ceci, le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et particulièrement à votre égard, avec la sainteté et la sincérité de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais selon la grâce de Dieu. En effet, n'allez pas vous imaginer, comme certains le disent, qu'il faut lire entre les lignes dans mes lettres, et qu'elles veulent dire autre chose que ce qu'elles disent. Donc je ne suis pas comme ça. C'est encore une chose qu'on lui avait reproché. Ça paraît ahurissant, mais le père Spic se dit, bien, c'est probablement parce qu'on lui posait, alors ça c'est une chose qu'on connaît bien aussi, on lui posait des questions auxquelles il était incapable de répondre sommairement. Exemple, la question des idolotites, la question de la résurrection des morts. Le père Spic évoque aussi les questions du mariage et de la virginité que nous avons vues l'année dernière, et qui sont tout de même subtiles, qui demandent des nuances. Alors, parce que Saint-Paul mettait des nuances, parce qu'il faisait de la théologie, qui distinguait un point de vue selon lequel et un autre point de vue selon lequel, alors on disait, oh là là, c'est de la casuistique. Vous voyez, ça, je connais bien ça. Hein, parce qu'on ne dit pas pan, 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 hein, boum. Il faut que les réponses soient comme ça. Sinon, vous faites de la casuistique, et il est évident qu'il y a une utilisation malhonnête des distinctions subtiles de l'intelligence, mais il y a une utilisation droite et qui est parfaitement compatible et parfaitement nécessaire justement à la pureté et à la sincérité avec laquelle on parle. Faut-il manger des viandes étouffées? Eh bien, la réponse n'est pas sommaire, elle est beaucoup plus subtile que ça n'en a l'air à première vue, et vous vous rappelez les subtilités dans lesquelles nous sommes entrés à ce sujet. Vous avez le droit pour vous, mais à cause de celui qui ne comprend pas, eh bien, vous ne devez pas, par charité, vous devez faire comme si vous n'aviez pas le droit. Hein? C'est bien compliqué. Il n'est pas franc, cet homme-là. Voyez, c'est vite fait. Hein? Alors, le père Spic suppose que c'est ça, c'est possible. En tous les cas, lui, Paul se défend. Il dit, écoutez, non, dans nos lettres, il n'y a rien que ce que vous écrivez, que ce que j'écris, que ce que vous lisez, que ce que vous comprenez. C'est pas, n'allez pas chercher autre chose. Il n'y a pas à décoder. Si ce n'est par le Saint-Esprit. Puis j'espère que vous comprendrez jusqu'à la fin, comme vous avez compris en partie. Vous avez compris en partie. Ben, je voudrais bien que vous compreniez jusqu'au bout. Que nous sommes pour vous un sujet de joie. Vous devriez être fier de m'avoir. De même que vous le serez aussi pour nous, au jour de notre Seigneur Jésus. Ce jour-là, moi, je serai fier de vous avoir. Et vous serez fier de m'avoir. Alors, c'est dans cette assurance que j'avais décidé d'aller d'abord chez vous, afin que vous ayez une seconde grâce. Puis de chez vous, passer en Macédoine. De Macédoine, ensuite, revenir chez vous. Et que vous emmenez deux ou trois d'entre vous pour aller en Judée. Bon, est-ce que j'ai été léger? Parce qu'il a eu cette idée-là, mais il ne l'a pas fait. Alors, il change d'avis, n'importe quoi, ce que vous avez dit la dernière fois. Hein. Alors, il se défend. Est-ce donc que, en voulant cela, j'aurais agi avec légèreté? Vous imaginez une fois de plus, ça recommence, que quand je veux quelque chose, je le veux selon la chair, selon mes idées à moi. De sorte qu'en moi, il y a à la fois des oui-oui et des non-non. Hein? Eh bien non. Et alors aussitôt, il balaye Paul et il se situe au niveau de Dieu. Parce que comme il est au niveau de Dieu, dis-moi, je me mets en face de Dieu. Alors Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas oui, mais. Vous comprenez? Voilà. Oui, non et oui, mais. Eh bien Dieu, non. Dieu est oui ou Dieu est non. Oui, oui, non, non. Dieu est fidèle. Et la parole que nous vous avons adressée n'est pas oui et non, ni oui mais. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché parmi vous, moi, Sylvain et Timothée, voyez les trois, n'a pas été oui et non, oui mais, hein. Il n'y a eu que oui, en lui, en Dieu, pas en nous. Nous, nous sommes simplement, nous sommes alignés. Hein. Car autant il y a de promesses faites par Dieu, elles sont oui en lui. Et c'est pour ça que vous dites Amen. Vous savez, ça va loin, hein. Le corps du Christ. Amen. Ça veut dire je veux pas de tout ce qui peut ressembler, je veux pas des belles synthèses, c'est le corps du Christ. Oui. Vous savez ça, oui, c'est vraiment le corps du Christ. Ça n'est plus du pain. Voilà ce que veut dire. Amen. Ce n'est plus du pain. Si vous dites, il y a une transfinalisation, alors c'est oui, mais. C'est pas Amen. Alors dites pas Amen. C'est exigeant tout ça. Car autant il y a de promesses faites par Dieu, elles sont oui en lui. C'est pourquoi aussi nous disons par lui Amen à Dieu pour le glorifier. Or celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a oint à l'onction du baptême, l'onction de la confirmation et éventuellement l'onction sacerdotale pour Paul, mais l'onction du baptême et de la confirmation, tout ça ne fait qu'un. Ce sont trois onctions qui ne font qu'un, à des degrés divers. Donc cette onction qui nous a aussi marqués d'un sceau, vous voyez, le caractère baptismal et de la confirmation, et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts, c'est-à-dire, ben justement, cette espèce de pressentiment sans lequel la foi ne serait pas la foi, sans lequel c'est même pas la peine de discuter, ni d'essayer de comprendre, ni d'essayer de croire, et auquel justement le père Chauvin faisait allusion pratiquement dans la première instruction qu'il a donnée à l'école du dimanche, quand il dit c'est par le cœur qu'il faut comprendre, ça veut dire que l'intelligence doit intervenir, bien sûr qu'elle doit intervenir. Mais si à travers ce qu'on entend, nous ne recevons pas vraiment des arts, vous savez les gens qui disent moi je veux bien faire affaire avec vous, mais il faut verser des arts. Eh bien Dieu est prêt à nous dire, moi si tu veux... Si tu veux que je te donne des arts pour que tu sois sûr que je veux faire affaire avec toi, je suis prêt. Je suis prêt à te donner des arts. Et qu'est-ce que c'est les arts? Eh bien, c'est cette espèce de consolation que tu auras dans la mesure où, justement, tu n'en chercheras pas à d'autres. De pressentiment, d'avant-goût de ce qui t'attend. Au-delà des tribulations, quand tout sera fini. Quand l'orage sera apaisé. Quand le rouleau compresseur de la mer viendra tout recouvrir. Quand l'océan de la paix sera vraiment irrésistible, eh bien, tu connaîtras quelque chose. Dès ici-bas, si tu veux, je vais te donner un petit billet euro, les arts, un pour mille, un pour dix, un pour un million, rien, trois fois rien, mais ça suffit pour vivre, ça suffit pour croire. Et c'est indispensable, c'est pas la peine d'essayer de croire si on ne reçoit pas les arts de l'esprit. Il faut les demander, ça, comme disait notre père maître après une conférence sur la foi, en disant, nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas beaucoup de soupe. À la fin, il a dit, la foi, ça se demande. Et bien, voilà. Et pour demander la foi, il faut demander les arts de l'esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La satiété, le rassasiement éternel, non, mais des arts. Ce dont il a besoin pour, comme je vous le disais la dernière fois, ne pas s'évanouir. Ne pas s'évanouir spirituellement. Alors là, je ne parle pas de l'évanouissement psychique, de celui qui n'en peut plus comme Paul, mais de l'évanouissement de l'âme, qui n'a plus la force de croire et d'espérer. Pour moi, je prends Dieu à témoin sur mon âme. Tiens, lui aussi, parle de l'âme. Tiens, il est déjà thomiste, au très mauvais sens du mot. Pour moi, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est par ménagement pour vous que je ne suis plus allé à Corinthe. C'est parce qu'il aurait fallu encore vous faire des reproches. J'en avais assez de vous faire des reproches, surtout quand j'ai su que ça allait mieux. Voilà. C'est pas parce que je pense... alors attention, il entend le contradicteur qui dit ben, de quoi, il vient pour régenter notre foi. Non, je ne viens pas pour régenter votre foi. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous faire des reproches, c'est de contribuer à votre joie. Parce que pour la foi, vous êtes ferme. Vous êtes ferme, oui, ça va. Mais la ferveur, l'effervescence spirituelle, l'ivresse spirituelle. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a du pain, mais il n'y a pas de vin. Hein, c'est pas, ni de fantaisie, de la vraie. Oui, celle, vous êtes solide si on veut, d'accord, pour la foi. Mais vous ne comprenez rien. Voilà. Vous ne comprenez rien à ce à quoi vous croyez. D'où vous êtes en danger de perdre même ce que vous avez, car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc éventuellement, la foi, si cette foi ne fume pas, il faut que ça fume, comme les appareils, vous savez. Hein, quand le courant est trop fort, ça fume pas chez vous. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de vraie joie. Parce qu'il n'y a pas de larmes, de vraies larmes. Enfin, il n'y en avait pas, mais grâce à moi, enfin grâce à ce qui s'est passé, vous avez été tribulé, etc. Recommençons pas. Je m'étais donc décidé à ceci, ne pas venir chez vous à nouveau dans l'affliction. Car si moi je vous afflige, alors qui est-ce que j'aurai pour me réjouir? Mais c'est admirable. C'est pas ça. Si je vous afflige, qui est-ce que j'aurai pour me réjouir? Hein? Alors je n'aurai plus pour me réjouir que des gens qui ont été affligés par moi, non. Alors vous comprenez, je vous ai écrit comme ça parce que justement je ne voulais pas venir parmi vous en éprouvant de l'affliction de la part de ceux dont j'attends la joie. Parce que j'ai cette assurance, en ce qui vous concerne tous, que ma propre joie est la vôtre à tous. Parce qu'en fait, vous savez, c'est dans un grand trouble, et le cœur tout angoissé de ce que je vous ai écrit parmi beaucoup de larmes, non pas pour que vous fussiez affligés, mais pour que vous connaissiez l'affection débordante que j'ai pour vous. Voilà comment il leur a transmis sa tribulation. Voyez. C'est en criant son amour à travers sa propre tribulation à leur sujet. Évidemment, il faut le faire. Savoir attraper les gens en leur transmettant l'amour qu'on a pour eux. Attraper les gens par amour. C'était un art de Saint-Dominique. Il paraît qu'ils étaient contents d'avoir quelque chose à se reprocher ou à se faire reprocher parce que se faire engueuler par Saint-Dominique, c'était vraiment... Parlez-moi de ça, ma chère. Enfin... Oui, je pense qu'en effet, c'est le ton qui fait la chanson, c'est une question de parfum, il y a une certaine manière, une scène d'amour, quoi, la vraie engueulade, c'est une scène d'amour. Mais si celui à qui on fait cette scène ne comprend rien à l'amour qu'il y a chez celui qui parle, alors évidemment, ce ne sera pas cette... manifestation d'amour, ça ne sera pas reçu comme une manifestation d'amour. Et alors, évidemment, il est tragique que certains soient tellement incapables de supporter le moindre reproche qu'on ne puisse pas leur donner cette manifestation d'amour qui consiste à leur faire des reproches. Et quelquefois, c'est la seule, en tous les cas, c'est toujours la plus précieuse. Mais quelquefois, c'est la seule. Alors ça peut être tragique. Je vous ai écrit, tout angoissé, parmi beaucoup de larmes, non pas pour que vous fussiez affligés, mais pour que vous connaissiez l'affection débordante que j'ai pour vous.